panorama économique.
Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. L'actualité économique de cette semaine sur Radio Capi est restée marquée par l'alerte de présumés cas de détournement de fonds à la Société Nationale d'Assurance. Selon un collectif de cadres et agents de cette entreprise, ces détournements porteraient sur la TVA et l'impôt sur les revenus professionnels. Faux, rétorque la SONAS, qui ne reconnaît pas d'ailleurs ces groupes révoqués. Nous parlerons aussi du Forum social mondial qui s'est ouvert le mardi dernier à Montréal. Cette rencontre est le plus grand rassemblement de la société civile dont l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes de l'heure. Plus de 50 000 personnes y prennent part et la RDC est représentée par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CENADEP en sigle. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous parlerons des 15 ans d'existence du Bureau central de coordination BCECO en sigle. Au cours d'une conférence de presse organisée cette semaine, le DG du BCECO a dressé les bilans de cette structure. L'ingénieur Théophile Matondombungu, DG du BCECO, s'est appesanti sur les différentes réalisations de ses bureaux d'exécution de projets de l'État. Il est d'ailleurs notre invité et avec lui nous allons débattre sur ces différents sujets. Bonjour Monsieur Matondo.
Bonjour Madame.
Et bienvenue à tous dans ce magazine.
Panorama économique, le dossier.
Le ministère des Finances enquête depuis quelques semaines sur des présumés cas de détournement de fonds qui auraient été commis à la Société nationale d'assurance. Ces détournements porteraient sur la TVA et l'impôt sur les revenus professionnels. L'alerte a été donnée depuis le mois de mars de cette année par un collectif des cadres et agents de cette entreprise du portefeuille de l'État. Au mois de mai de cette année, le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, avait même écrit à la Direction générale des impôts demandant une enquête sur la TVA et l'impôt sur les revenus professionnels perçu par la Société nationale d'assurance. La direction générale de la SONAS juge non fondées les allégations de détournement telles que révélées par ces collectifs. La SONAS affirme que les membres du collectif sont des agents révoqués l'année dernière. Un dossier de François Kadima que je vous convie à suivre.
La lettre du ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, adressée à la DGI, dont une copie nous est parvenue, rapporte que ces détournements seraient perpétrés de manière systématique au sein de la SONAS par le biais de comptes bancaires ouverts dans les livres de la FN Bank. Ces éléments sont relevés dans un document transmis au patron des finances par le collectif des agents et cadres de la SONAS. Monsieur Bamanaï Kambala est le porte-parole de ce collectif.
La preuve, c'est la gestrapo, c'est-à-dire que la gestion des statistiques et des productions de la SONAS. À titre exemplaire, pour l'agence Mongafula. En 2015, prime payée, Mongafula a réalisé 343 000 dollars, mais n'a même pas payé les 46 000 dollars de la TVA. Et l'ensemble de toutes les agences, la TVA n'est pas révexée à la DG. Pour l'IPR, les agences SONAS se font payer eux-mêmes le salaire par le phénomène de 20% qui est institutionnalisé à la SONAS. Quand lorsque vous amenez votre production, on rétranche dans la production le 20% et on vous fait payer pour rétrancher dans vos arriérés.
Les documents envoyés au ministère des Finances par le collectif des agents et cadres de la SONAS indiquent que la TVA est des droits fixés à 16% en matière d'assurance pour chaque risque et police d'assurance. Et la SONAS a créé deux comptes bancaires à la FN Bank dans lesquels toute agence verse la TVA collectée en lieu et place des comptes de la Direction générale des impôts. Après que les membres de ces collectifs, des agents et cadres de la SONAS, soient entendus à la DGI, des sources proches de cette Direction générale des impôts renseignent que le rapport de l'enquête a été déposé au cabinet du ministre des Finances, sans nous révéler les contenus. Cette information est confirmée par le service du ministère des Finances, qui souligne que les vérifications sont en train d'être faites sur la situation fiscale à la SONAS dans le cadre de cette enquête. À la SONAS, l'on ne reconnaît pas les personnes qui se déclarent être les membres du collectif des agents et cadres de cette entreprise. Ces agents ont été révoqués depuis l'année dernière pour avoir refusé d'être affectés ailleurs, a indiqué l'un des directeurs de la SONAS. Ce dernier a par rapport aux allégations sur le détournement de la TVA et de l'IPR, indiqué que la SONAS ne les a jamais détournés, contrairement à ce qui est rapporté par ces groupes à manque d'informations.
Panorama économique.
Passons à présent aux nouvelles en bref. Un forum social mondial s'est tenu pour la toute première fois à Montréal au Canada depuis le mardi dernier. Cette rencontre était le plus grand rassemblement de la société civile visant à trouver des solutions aux problèmes de notre temps en construisant des alternatives concrètes au modèle économique néolibéral et aux politiques fondées sur l'exploitation des êtres humains et de la nature. Plus de 50 personnes venues au monde entier ont participé à la marche d'ouverture du mardi dernier qui va aller jusqu'au 14 août prochain. Autre actualité, les travaux de la cimenterie de Maïko, Simako ou ex-cimenterie de la province orientale Sipor vont débuter avant la fin de cette année 2016. L'annonce a été faite à Kisangani le week-end dernier par les présidents du comité d'opérationnalisation de ces projets et conseiller principal du premier ministre en charge du collège économique, financier et budget. Selon les professeurs Beaujolais Bofoya Komba, le multinational Satarem Limited vient de mobiliser 250 millions de dollars américains en appui du fonds du gouvernement de la RDC. Et enfin, impact socio-économique du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est l'intitulé d'une enquête présentée cette semaine par la plateforme Cadre pour la mobilisation sociale. D'après cette enquête menée en décembre dernier, les populations vivant autour de Bukangalonzo affirment que ces parcs ne leur a pas apporté beaucoup dans leur vie quotidienne. Le coordonnateur national du Cadre pour la mobilisation sociale est revenu sur ses résultats.
Panorama économique, reportage.
Cette deuxième partie revient sur le 15 ans du BESICO, entendez Bureau Central de Coordination. En effet, le BESICO a organisé le mercredi dernier à Kinshasa une conférence de presse pour commémorer ses 15 ans d'existence. À cette même occasion, l'ingénieur Théophile Matondo Mbungu, DG du BESICO, a présenté le rapport de l'exercice 2015. Selon lui, plusieurs réalisations sont à compter dans l'actif de ces bureaux d'exécution de projets de l'État, notamment la construction de plusieurs écoles, des stades municipaux et l'immeuble du gouvernement. Il a également évoqué les difficultés auxquelles le BESICO fait face. Alors, monsieur le DG, 15 ans, ça c'est fait. Bon anniversaire.
Merci madame, merci beaucoup.
La première question, monsieur Matondo, Bureau Central de Coordination, c'est quoi? C'est quoi le BESICO?
Le Bureau Central de Coordination, BESICO en sigle, est un service public créé par ordonnance du chef de l'État le 8 août 2001 et qui a pour mission de gérer les projets financés par les bailleurs de fonds, mais aussi par les ressources propres du gouvernement. Donc la tâche essentielle, principale du Bureau Central de Coordination, qui est d'ailleurs placé sous tutelle du ministère des Finances, c'est de gérer les projets de développement au profit des populations.
Et quels sont ces secteurs d'intervention?
Oui, le BESICO intervient dans plusieurs secteurs de développement. Nous pouvons citer d'une manière singulière les secteurs sociaux entendus par là, l'éducation, la santé, la protection sociale et le développement communautaire. Au-delà de ces secteurs vitaux qui touchent directement l'homme, il y a aussi les projets des grandes infrastructures, notamment les transports, l'énergie et les bâtiments publics. Et au-delà de ces deuxièmes secteurs, nous avons aussi plusieurs actions menées au titre de réformes, d'appui institutionnel et des renforcements des capacités. Donc voilà un peu le secteur, les principaux secteurs d'intervention du BESICO.
Oui, c'est vrai, vous avez totalisé 15 ans et nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de tout ce que vous avez fait en 15 ans. Mais en quelques minutes, s'il faut parler des grandes réalisations, des grands projets, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, pendant les 15 ans, nous avons travaillé d'arrache-pied et le chef de l'État ainsi que le gouvernement ont porté leur confiance au Bureau Central de Coordination. Nous avons travaillé sur trois axes. Le premier axe, c'est surtout l'intervention dans les projets d'urgence.
C'est-à-dire?
Les projets qui touchent directement les besoins vitaux des populations. Il faut se dire que le BESICO a été créé au terme de plusieurs années de conflits armés ainsi que des récessions économiques. Ce qui fait que directement le BCECO devait faire face aux besoins. Le gouvernement devait faire face aux besoins vitaux des populations en matière de son vécu quotidien. C'est pour cela, pendant cette période, donc de 2001 jusqu'à 2008, le BCECO a travaillé intensément sur les besoins vitaux des populations. Entendu par là, la réhabilitation des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la prise en charge des zones de santé en termes de fourniture des médicaments et des prises en charge de besoins du personnel. Et nous avons aussi travaillé intensément dans la réouverture des pistes rurales, des dessertes agricoles. Et au-delà de cela, nous avons aussi travaillé sur la réhabilitation d'une route importante. Et c'était déjà en 2002.
Laquelle ?
La RN1. Vous imaginez en 2001, la traversée, la jonction entre Matadi et Kinshasa était très, très, très difficile et il fallait intervenir rapidement pour pouvoir refaire la fluidité entre ces deux grandes villes. Le BCECO a travaillé pour pouvoir réhabiliter les tronçons les plus mauvais qui se situaient entre Mbanzangungu et Pomposo, ce qui a été fait en une année et demie. Et au-delà de ça, nous avons commencé, toujours dans ces projets d'urgence, nous avons intervenu dans l'enseignement supérieur université avec la réhabilitation des hommes d'étudiants, aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi. Viendra ensuite la deuxième période qui commence de 2008 jusqu'à 2015 où le gouvernement s'est lancé dans des actions de développement, dans des projets de développement de longue durée qui sont bâtis sur des stratégies sectorielles des différents ministères. C'est ainsi que le BCECO a eu à gérer des grands projets, notamment le projet de réhabilitation des universités. Nous avons réhabilité une bonne partie des trois grandes universités du pays, à savoir Lubumbashi,
Inilou,
l'université de Kisangani, l'université de Kisangani ainsi que l'université de Lubumbashi. Et en même temps, nous avons construit des nouvelles universités, chose qui est très importante à souligner, car depuis l'indépendance, une telle action n'a jamais été menée. Donc nous avons construit l'université de Kindu, une bonne partie de l'université officielle de Bukavu, ainsi que l'université des Kalemi qui est en cours de construction. Ça, c'est dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire.
Et les travaux vont se terminer quand
Pour Kalemi, les travaux se terminent au plus tard septembre 2017. Donc nous pensons que à la rentrée académique de l'année prochaine, les étudiants auront cet avantage de pouvoir occuper leur nouveau bâtiment. Okay. À part cela, nous avons aussi réhabilité l'université de Kinshasa et au-delà de cela, nous avons ici fait aussi des interventions sur l'enseignement primaire et secondaire à travers un projet innovateur, celui des constructions de 1000 écoles. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de pouvoir voir jour après jour nos territoires être dotés des écoles avec des standards assez élevés.
Est-ce que vous avez totalisé toutes les 1000 écoles?
Non, nous sommes en voie de totaliser. Donc
vous
aujourd'hui, nous sommes à 615 écoles. Et d'ici deux mois, nous sommes en train de livrer 100 autres écoles.
Donc 60% du taux d'exécution.
Voilà, voilà. Donc d'ici octobre, nous serons à 70%. Et le défi est de pouvoir arriver à 1000 écoles d'ici la fin de l'année. Donc c'est un challenge qui demande aussi des efforts. Et ces efforts sont en train d'être faits par le gouvernement, surtout en matière financière. Au-delà de cela, un autre projet structuré, c'est la construction des stades. Nous avons été appelés à construire des stades, aussi bien des stades municipaux que des stades de dimension ou bien d'envergure nationale. En ce qui concerne les stades municipaux, qui est aussi une révolution dans l'encadrement de la jeunesse, nous avons initié le projet pilote de construction des stades municipaux à Kinshasa. Pour cette phase, nous sommes en train de construire, ou bien nous avons construit trois stades déjà qui sont livrés.
Lesquels?
Le stade de Matete, de Barumbu ainsi que le stade Delvaux. Déjà, ceux qui auront cette occasion, ils peuvent passer dès la semaine prochaine dans ces stades, ils verront les activités. Les activités d'une autre nature.
C'est-à-dire ?
Cela veut dire quoi ? Ces stades sont voués à l'encadrement de la jeunesse. Vous êtes habitant des monts de Ngalima, vous avez des enfants et vous pensez qu'ils ont des vocations en matière de football, vous pouvez venir inscrire votre enfant au stade municipal, moyennant une contribution, parce que ce sont des ouvrages qui doivent s'entretenir, et la gestion du stade aura l'obligation d'encadrer vos enfants à des heures bien précises et à des jours bien précis, et vous pourrez suivre l'évolution, parce que dans ces stades, il sera affecté des encadreurs qui seront payés d'une manière régulière. Donc c'est une innovation. Et bien entendu, ces stades pourront aussi accueillir des rencontres des quartiers. Donc ici, il y a des associations des quartiers, ils peuvent venir pour jouer. Alors ça, c'est pour les stades municipaux. Et ce programme continue et va continuer avec l'engagement du gouvernement dans les territoires.
Mais les stades de Banda n'est toujours pas...
Oui, les stades de Banda n'est toujours pas terminé. C'est un stade... il faut dire que le PROSTAM, donc le projet des stades municipaux, a plusieurs versions des stades. Donc il y a des stades, des versions qui sont assez poussées et qui comportent, qui ne sont non pas seulement. Les gens pensent qu'un stade municipal ne peut pas être olympique. Donc ces stades, en leur version poussée, ce sont des stades olympiques, donc qui ont plusieurs disciplines, qui peuvent organiser plusieurs disciplines.
C'est le cas de ce Vandal.
De Vandal, qui va organiser en dehors du football, l'athlétisme, le basketball, le volleyball et le handball et les autres disciplines.
Ce n'est pas plutôt un problème de financement ?
C'est un problème de financement, mais c'est aussi un problème technique. Donc nous avons aujourd'hui finalisé toutes les études du stadium qui doit abriter les disciplines handball, volleyball et basketball. Et le gouvernement s'est réengagé pour pouvoir poursuivre les travaux. Donc d'ici quelques jours, ces travaux seront relancés. Donc à part ces stades municipaux, nous avons aussi construit et réhabilité certains stades, notamment le stade de la ville de Kisangani à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons livré le stade de Kindu. Donc, voilà un peu dans ce qui concerne le secteur des sports.
Oui, Monsieur le DG, vous aviez parlé de trois axes. D'abord, des projets d'urgence de 2001 à 2008. Et puis, le deuxième axe de 2008 à 2011, des projets de développement. Et puis, le troisième
axe, donc parallèlement à ces deux axes, nous avons toutes les actions de renforcement des capacités, toutes les actions d'appui institutionnel et toutes les actions qui portent sur l'assistance à d'autres services de l'État en matière de gestion des projets. Donc nous avons travaillé intensement dans ces troisième axe de façon à pouvoir donner les capacités nouvelles aux administrations, et aujourd'hui la plupart des administrations ont reçu à travers les actions du BESECO des équipements, des formations, les personnels ont été formés pour pouvoir être à même de pouvoir faire face aux défis de développement. Nous avons aussi mené des études, beaucoup d'études sectorielles, notamment dans le secteur de l'agriculture, avec les études de filières, qui aujourd'hui peuvent permettre à ce que le pays puisse se relancer dans les cultures de rente. Il y a aussi d'autres études, notamment les études sur les assurances et consorts. À part cela, nous avons aussi formé, nous avons recruté et formé. Aujourd'hui, nous avons dans l'actif du gouvernement des recrutements de 850 jeunes qui ont été formés et aujourd'hui qui sont affectés dans les différentes administrations. Pour terminer, nous portons aussi l'assistance technique en gestion des projets aux différents services de l'État. Nous l'avons eu à le faire avec la Banque centrale en ce qui concerne la formation en passation de marché. Nous sommes en train de travailler avec l'INES, l'Institut national des statistiques, pour le recrutement dans le cadre de lancement des recensements scientifiques. Nous avons aussi travaillé avec la CENI pour l'acquisition, le recrutement des entreprises pour l'acquisition de certains intrants. Et nous continuons aussi à collaborer aussi bien avec les firmes internationales que les sociétés au niveau national.
Oui, monsieur le DG, parmi les reproches qu'on fait au BESECO, il y a notamment le fait que certaines routes que vous construisez, enfin pas les BESECO construisent, mais certaines routes qui sont construites n'ont pas une longue durée de vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous engagez des entreprises qui ne sont pas compétentes? Comment se passe concrètement la passation des marchés?
Bon, ici, il faut se dire d'emblée que, disons, comme vous l'avez souligné, les BESECO n'est pas engagé, trop engagé dans le projet de réhabilitation, bien de construction des routes, mais néanmoins, nous avons eu à les faire par moment. Mais il faut se dire que les projets de construction des routes sont des projets lourds qui demandent beaucoup d'études et qui demandent aussi beaucoup d'acteurs, notamment des entreprises, des bureaux d'études. Mais ici, comme nous parlons en général, il faut situer l'action qu'on est en train de mener à travers ces routes. Est-ce que c'est une intervention ponctuelle ou bien ce sont des travaux de construction en profondeur? Bon, ce que nous prenons comme disposition dans les métiers, c'est que chaque fois qu'il y a travaux de construction, nous devons nous munir, nous devons faire en sorte que les études soient très bien faites, mais aussi pendant l'exécution, que l'entrepreneur soit régulièrement, d'une manière intensive, contrôlé par les bureaux d'études. Je pense que si nous respectons cet attelage et nous respectons aussi les normes, je pense que les routes doivent tenir parce que les routes sont faites sont étudiées suivant les normes qui sont des normes internationales.
En 15 ans, on ne peut pas dire que tout a bien marché. Il y a certainement des difficultés. Alors, quelles sont ces difficultés et les défis auxquels vous devez faire face quotidiennement?
Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire rapidement que les défis sont nombreux, mais le plus important, c'est surtout des défis liés à l'accessibilité des sites d'intervention. Comme vous le savez, notre pays est en train de monter petit à petit en puissance en matière de dotation en infrastructure. Certains coins ne sont pas encore accessible, mais nous sommes tenus à pouvoir y travailler. Donc, il y a tous ces problèmes techniques, logistiques de pouvoir faire parvenir, disons, à faire arriver dans les sites éloignés tout ce qui est comme intrant. C'est un défi important, ce sont des contraintes importantes qui parfois impactent nos projets en termes de délai, mais aussi en termes de coûts, bien sûr. Et à part ces contraintes, il y a aussi la capacité pour certains coins des entreprises, surtout des entreprises locales, à pouvoir être recrutées. Parfois, dans certains coins, je ne le dis pas pour certaines villes, notamment la ville de Kinshasa, ou bien Lubumbashi, ou bien Goma, mais dans certains coins, il y a parfois difficulté de pouvoir trouver des opérateurs valables.
Est-ce que vous pouvez pas importer?
Nous pouvons importer, mais sans un coût, madame, sans un coût. Comme je l'ai dit, c'est un impact sur le délai. Aujourd'hui, le cas des prix, c'est que nous sommes tenus à pouvoir ramener les écoles le plus loin possible jusque là où se trouvent les enfants. Donc aujourd'hui, les opérateurs qui travaillent jour et nuit sur ces projets, par exemple de PRIST, sont appelés à pouvoir amener les sacs de ciment, les sables, les barres de fer sur des pirogues au dos pour pouvoir faire arriver. Donc ça a un impact. Une autre difficulté, bien sûr, c'est un peu la restriction, un peu, disons, le moyen un peu financier, parfois limité. Comme vous le savez, le pays fait face à des contraintes qui sont des facteurs parfois exogènes et qui impactent la mobilisation des moyens. C'est un impact, donc c'est un facteur qui limite aussi les actions en matière de gestion des projets.
Est-ce que le politique n'a pas la même mise sur ce que vous faites? On ne vous impose pas telle entreprise ou telle autre?
Non, je pense que le BESECO, au cours de ces 15 ans, a fait en sorte qu'il puisse se prémunir des procédures, des process qui sont des process d'un niveau international. Donc aujourd'hui, nous faisons un effort pour minimiser, à travers nos procédures, minimiser l'interférence politique, et nous arrivons à le faire.
Et qu'est-ce qui va arriver après 15 ans? Quels sont vos projets, les perspectives?
Le perspective d'avenir, nous voulons d'abord réitérer nos remerciements au chef de l'État qui a eu l'idée de pouvoir mettre en place un organe, une agence souple de gestion de projet. Nous réitérons aussi nos remerciements au gouvernement pour la confiance toujours renouvelée vis-à-vis du BESECO. Pour l'avenir, nous pensons demeurer demeurer une agence, un organe de gestion des projets, mais qui doit avoir une envergure aussi bien nationale, avérée, mais aussi une envergure régionale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons compétir, nous devons être à même de pouvoir intervenir, non pas seulement en RDC, mais aussi dans les pays de la région, pourquoi pas au niveau mondial.
Et parce qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il vous faut?
Ce qu'il nous faut, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler, c'est d'abord de pouvoir maintenir et relever le niveau de l'expertise de notre personnel. Pour votre information, nous avons depuis maintenant 5 ans bâti la culture d'avoir toujours un plan de formation, de mise à niveau du personnel par rapport aux normes internationales. Et puis il y a aussi tout ce qui est élément lié à la mutation du BESECO pour lui donner plus d'autonomie, mais plus de possibilités de pouvoir compétir, surtout au niveau régional.
Peut-être un message à vos collaborateurs qui fêtent 15 ans avec vous.
Aux collaborateurs, nous leur souhaitons de bonnes choses, beaucoup de persévérance, beaucoup d'engagement et beaucoup d'implication pour pouvoir toujours travailler dans cette approche qui est liée à la satisfaction des besoins des populations et aussi à la population congolaise. Nous l'invitons à toujours faire confiance au BESECO et surtout à l'expertise nationale.
Monsieur le DG, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans ces studios de Radio Kapi.
Merci beaucoup, madame.
Et merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Retrouvez ce magazine sur www.radiokapi.net et n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions sur notre page Facebook. Bon week-end à tous.